Avec les parfums Scandale de Jean-Paul Gaultier, le scandale va être sur toutes les lèvres, surtout sur celles qui aiment raconter de sulfureuses histoires de stars.
Madame Figaro.
La première fois qu'on l'a vu, il portait une blouse blanche, une cravate à motifs géométriques et un stéthoscope autour du cou. C'était l'été 1996, dans cette série diffusée sur France 2 et devenue un peu kitsch aujourd'hui, Urgence. Georges Clooney incarne le docteur Ross, le pédiatre au regard de braise qui brisait le cœur des femmes dans cet hôpital de Chicago. Presque 30 ans plus tard, il est devenu une star à Hollywood. Il a tourné avec les plus grands réalisateurs du monde, il est l'égérie indétrônable de Nespresso, et il a suscité bien des chagrins d'amour avant de rencontrer celle qu'il considère comme la femme de sa vie, Amal Alamuddin. C'est sans doute comme ça que beaucoup d'entre nous résumeraient Georges Clooney au moment où il entame tranquillement la soixantaine. Mais ce serait sans savoir ce que cache cette personnalité en apparence si simple à décoder. Ce serait sans connaître son enfance, par exemple. Période compliquée pour lui, mais pendant laquelle il a tout appris. Ce serait sans connaître non plus ses ambitions secrètes qui pourraient le faire définitivement sortir de la bulle d'Hollywood. Alors que nous dit la vie de Georges Clooney si on la regarde de beaucoup plus près? Je suis Marion Galli-Ramouneau, bienvenue dans Scandale.
They say it seems like Angelina was planning this divorce for a while.
I have no idea what you're talking about.
More accusers of Epstein have come forward since the weekend.
So many people around Britney are controlling her money.
Did you make Kate cry?
No.
Britney, can we do a quick fix of it?
Là, vous voyez peut-être Georges Clooney, mèche grisonnante au vent, courir dans un couloir d'hôpital à côté d'un brancard en criant « On va le perdre !» ou « On n'a plus de pouls !» ou un truc du genre.
Vous m'emmenez où ?
En radiologie, on va te faire passer des radios et on va utiliser une machine appelée scanner pour être sûr que tu n'as rien à la tête.
Dans Urgence, la série familiale qu'on a tous dévorée dans les années 90 avec nos parents, sur nos canapés en velours noir, vert et violet, il est le docteur Ross, pédiatre en cravate passionné qu'on rêverait tous d'avoir pour nos enfants. Mais il est aussi le bourreau des cœurs, enfin du cœur de l'infirmière Juliana Margulies, aka Carole Attaway dans la série. Il est alors le stéréotype du narcissique qui sauve des vies tous les jours et à qui il est un peu compliqué de demander plus.
C'est vrai, tu te suffis tellement à toi-même. Tu fais des choix, tu décides et tu détruis la vie d'autres personnes. Question narcissisme, tu atteins des sommets, Dr. Ross.
Carole.
Quoi ?
Je demande pardon.
Pour ça aussi, tu es champion.
À cette époque-là, Georges Clooney a 35 ans, il en fait 10 de plus avec ses cheveux poivre et sel, et on se dit que comme Hugh Grant ou Matthew McConaughey avant lui, il a juste été découvert un peu tardivement, après 15 ans de flop. Qui a vu le retour des tomates tueuses ? On se dit même que Georges Clooney ne voulait peut-être pas forcément être acteur et qu'un directeur de casting est tombé sur lui par hasard. Mais pas du tout. La réussite est dans l'ADN de Georges Clooney. Maëlle Brun est journaliste, chef du service People à Closer, et elle a co-signé l'ouvrage « Georges Clooney, une ambition secrète ».
Georges Clooney, on le connaît tous comme quelqu'un de drôle, de charmant, de charmeur. En fait, il est rompu aux médias depuis sa plus tendre enfance.
Son père, Nick Clooney, est un présentateur télé très connu dans le Kentucky de l'époque. Précisément, il présente une émission télévisée sur la chaîne locale de Lexington, « The Nick Clooney Show », sorte de matinale d'actualité que tout le monde regarde là-bas.
Georges Clooney a été habitué au projecteur depuis vraiment ses plus jeunes années. Dès qu'il allait quelque part, il était remarqué comme étant le fils de Nick Clooney. Il en a d'ailleurs pas mal souffert parce qu'à l'adolescence, quand il était un peu complexé, etc., il disait que c'était assez compliqué de savoir que tout ce qu'il allait faire, toutes les petites gaffes, les petites bourdes qu'il allait faire, allaient être éventuellement relayées dans le journal local comme un scandale puisqu'il était le fils de la star du cru.
Dès son plus jeune âge, Georges apprend ce qu'est porter un masque en société et ne l'enlever sous aucun prétexte. Il le raconte très bien dans un entretien au magazine Parade en 1998.
Parfois, dans la voiture, papa et maman ne se parlaient pas parce qu'ils étaient en colère l'un contre l'autre. Et ma sœur et moi, on se disputait à l'arrière. Puis quelqu'un ouvrait la portière. Et l'on découvrait tous ces gens qui nous attendaient. D'un geste, mon père enlaçait ma mère et lui lançait. « C'est formidable, hein, Nina ? Hein, c'est formidable ?» Et elle répondait automatiquement avec un grand sourire. « Oh, c'est si beau d'être là, n'est-ce pas, les enfants ?» Et là, on renchérissait avec un « Oui, c'est génial d'être là !» Et voilà comment, en un clin d'œil, on se transformait en famille idéale. Et au moment de repartir, de retour dans la voiture, on retrouvait ce silence absolu incroyablement lourd et pesant.
C'est d'autant plus difficile pour George Clooney qu'il n'est pas encore le George Clooney qu'on connaît dans l'enfance et l'adolescence. À l'école primaire, sa dyslexie lui fait vivre un enfer en classe. Au début du lycée, il est atteint pendant de longs mois d'une paralysie faciale de Bell à cause d'un nerf crânien endommagé. La crise se déclenche lors d'un repas familial au restaurant. Sans même s'en rendre compte, alors qu'il boit du lait, le contenu de son verre se met à dégouliner d'un côté de sa bouche immobile. Le début d'un calvaire qui dure presque un an. En classe, ses camarades se mettent à l'appeler « Clown Dog » pour souligner son air de basset triste. Lui dira plus tard que ça a été la pire période de sa vie.
La jeunesse de George Clooney n'a pas été aussi glamour qu'on pourrait l'imaginer. C'était un adolescent un peu avec un physique un peu moins facile que ce qu'on pourrait croire.
À 18 ans, il finit par sortir de l'ombre et décide de suivre les traces de son père en se lançant dans des études de journalisme à la Northern Kentucky University. Mais ses soirées prennent rapidement le dessus sur ses journées, comme il le dit à Playboy en 2000.
Quand j'étais à la fac, j'ai fait la fête comme personne. Mais il faut me comprendre aussi. J'ai été élevé dans une famille catho super stricte où j'avais un couvre-feu à 9h pétante. Donc, à la fac, pendant 2 ans, ma vie a tourné autour de la drogue et des filles.
Au bout de quelques mois, il réalise qu'il ne s'épanouira pas dans la presse. Il a 20 ans quand sa tante Rosemary Clooney, une chanteuse assez célèbre à l'époque, est de passage dans le Kentucky pour un tournage de film et qu'elle lui propose de jouer les figurants. Le rôle en question, celui d'un jeune homme qui doit traverser un champ la tête baissée avec une botte de foin sur l'épaule. C'est tout, pas de dialogue. Mais pour lui, c'est une épiphanie. Il vient de trouver sa voie. Son père dira d'ailleurs bien plus tard, dans une longue interview pour la chaîne américaine ABC News, qu'il a toujours pressenti que son petit garçon blagueur deviendrait un artiste. Il dit alors que George a ce truc, cette capacité à captiver les gens, à les faire marrer. Mais que surtout, il aime vraiment ça.
Aux États-Unis, on a souvent appelé les clownés les Kennedy du Kentucky. La comparaison n'est pas anodine. En fait, il y a un véritable transfert d'ambition de Nick vers George Clooney, comme ça avait été le cas de Joseph Patrick Kennedy vers JFK. Les deux duos ont en commun des origines irlandaises, la famille Clooney ayant fui la grande famine irlandaise pour s'installer au Kentucky en 1852. Et ils partagent aussi une vraie foi catholique, et puis ils partagent aussi une stratégie donc de mise sur orbite des fils par les pères.
Et voilà comment George Clooney arrive, 15 ans plus tard quand même, au casting d'urgence. Rüdiger Sturm est un critique de cinéma basé à Berlin.
His big breakthrough was lead role in ER, Emergency Room, which then gave him such an exposure.
Le moment où il a vraiment émergé, c'est quand il a eu le rôle principal dans Urgence, Emergency Room. Ça lui a donné une telle visibilité que ça lui a permis d'être ensuite choisi pour des rôles importants à Hollywood, comme One Fine Day avec Michelle Pfeiffer, ou Peacemaker avec Nicole Kidman, si je ne me trompe pas, et ensuite, bien sûr, pour le tristement célèbre Batman et Robin. Mais je pense que sa carrière aurait pu ne pas aussi bien marcher. Il y a beaucoup d'exemples d'acteurs qui réussissent à la télévision, mais pour une raison ou une autre, qui ne réussissent ensuite pas vraiment à faire des films, ou en tout cas à devenir une véritable star de cinéma. Je pense que George Clooney a eu de la chance. Le film qui a été un tournant, peut-être l'un des films les plus décisifs de sa carrière, c'est Hors d'atteinte, avec Jennifer Lopez, réalisé par Steven Soderbergh. Ce film met en avant un grand nombre de ses qualités, son charme, son charisme, son physique, et un certain sérieux et une certaine espièglerie. Et je pense que ça a été un véritable tournant pour lui. C'est juste mon impression, mais c'est comme si, avec ce film, on comprend qu'il peut devenir une star de cinéma magnétique.
«
En 2000, il a 39 ans quand il reçoit le Golden Globe du meilleur acteur pour O Brother des frères Coen.
Je pense que le milieu des années 2000 a été pour lui la période de sa vie où il a été le plus, disons, productif artistiquement. Premièrement, il a joué des rôles où il a exploré le côté le plus sombre de sa personnalité, comme l'agent de la CIA dans Syriana. Parallèlement, il a réalisé son premier long métrage, très ambitieux, Confession d'un homme dangereux, qui est sorti peu de temps après. Mais je pense que son meilleur film en tant que réalisateur est Good Night and Good Luck, qui lui a également valu quelques nominations aux Oscars. À cette époque, au début des années 2000, il a aussi réussi à affirmer son statut de premier rôle, et surtout avec la série des trois Oceans, qui, je pense, sont encore aujourd'hui ses films qui ont eu le plus grand succès commercial.
Bonjour.
Veuillez décliner vos noms et prénoms pour mémoire.
Daniel Ocean.
Ocean's 11, puis Ocean's 12, puis Ocean's 13, la trilogie de Steven Soderbergh dans laquelle il joue un braqueur de casino notoire propulse, c'est vrai, George Clooney comme le parfait gentleman imparfait, le gentil voyou en gros et le séduisant infidèle.
Monsieur Ocean, nous aimerions comprendre une chose. Y a-t-il une raison pour laquelle vous avez commis ce délit? Ou y a-t-il une raison pour laquelle vous vous êtes fait prendre cette fois?
Ma femme m'a quitté, ça m'a perturbé. Je suis entré dans une spirale autodestructrice.
Encore aujourd'hui, beaucoup retiennent d'ailleurs ça de lui. Ce côté vieux beau assez marrant auquel il est difficile de résister. Rudiger Sturm en sait quelque chose. Il l'a rencontré à plusieurs reprises.
La première fois, c'était il y a une vingtaine d'années, donc c'est un peu flou. C'était pour Good Night and Good Luck.
Il l'a aussi rencontré pendant la promo de Michael Clayton en 2007, lors d'une conférence de presse.
Lorsqu'il est arrivé, il était très enjoué, de bonne humeur, éloquent, amusant, mais aussi un peu comme un roi devant sa cour. Il y avait, 30 journalistes qui lui posaient des questions à tour de rôle. Ce jour-là, il est vraiment tel qu'on l'imaginait. C'est une star de cinéma, élégante et charmante. Une vraie star de cinéma et pas seulement, entre guillemets, un acteur. C'est vraiment quelqu'un de très réfléchi. Il est intelligent, cultivé, il a une opinion argumentée sur plein de sujets différents. En même temps, il adore faire des blagues sympas, il a un humour plein d'autodérision. En tant que journaliste, si vous voulez une bonne citation pour votre article, vous pouvez être sûr qu'il va vous en donner une.
Et à ce moment-là, il faut dire que ce côté homme mûr sûr de lui, de son charme et de ses blagues, il est complètement exacerbé dans les pubs Nespresso.
Nespresso, right? Yeah. What else?
Parmi les premières diffusées à la télé en 2005, il y a celle où il pense qu'une jeune femme veut lui demander un autographe alors qu'en fait, elle veut juste qu'il se pousse pour qu'elle puisse prendre un café.
Excusez-moi. Pardon. Ça vous dérange si je...
Oh non, bien sûr. Je crois que je n'ai pas de stylo.
Je veux juste un espresso.
Ah oui.
Nespresso.
Un espresso.
What else?
Quoi d'autre?
Maëlle Brun revient sur l'homme qu'il représentait finalement dans ses pubs.
George Clooney n'a pas la beauté plastique d'un Brad Pitt ou d'un Matt Damon même à la rigueur. Tous ses copains sont plus beaux que lui, mais lui a toujours cultivé ce charme. S'est toujours montré hyper drôle, hyper séduisant dans les interviews. Il a su aussi trouver ce filon des pubs un peu humoristiques comme il a fait avec Nespresso. Et ça, je pense que c'est l'éducation qu'il a reçue aussi, hein, qui lui a fait appréhender très tôt le système hollywoodien, le fait qu'il faille sortir la bonne punchline au bon moment. C'est quelqu'un, George Clooney, qui prépare ses interviews, qui ouvre vraiment sa porte aux journalistes pour que vous ayez l'impression que c'est votre meilleur copain et que voilà, vous ayez une image très positive de lui. C'est quelqu'un qui est très rompu aux médias, qui sait donner aux médias ce dont ils ont besoin, finalement, et du coup, qui s'est construit cette image de charmeur et de mec avec qui les hommes aimeraient être amis et dont les femmes aimeraient être la petite copine, quoi.
Dans sa vie privée, c'est un peu aussi ce qu'il donne à voir. l'homme mûr et séduisant qui enchaîne les cafés donc, mais aussi les soirées et surtout les conquêtes. La presse américaine aime l'appeler le célibataire le plus convoité d'Hollywood. Ce qui est marrant parce que si on jette un coup d'œil sur les 20 dernières années, George Clooney a en fait toujours été en couple. Sa première petite amie connue, c'est Kelly Preston, une comédienne qui épousera plus tard John Travolta. Il est avec elle entre 1987 et 1989, c'est bien avant Urgence donc, et il n'a pas encore 30 ans. L'histoire dit que 23 jours après s'être rencontrés, ils achètent une maison à 1 million de dollars sur les hauteurs de Los Angeles. L'histoire dit aussi que ça va trop vite pour George, qui la quitte 2 ans plus tard sans prévenir. Sans prévenir non plus, il se marie quelques mois plus tard avec une autre comédienne américaine, Talia Balsam. Ils restent ensemble jusqu'en 1993 et encore une fois, c'est George Clooney qui met fin à la relation. Il dira plus tard qu'il n'était pas prêt pour tout ça. Il divorce donc pour la première fois à 32 ans. Il y a ensuite une autre actrice, Kimberly Russell. 2 ans de relation et même rengaine, George Clooney lui fait le coup de la phobie de l'engagement et il prend la fuite dès qu'elle lui dit qu'elle a envie de fonder une famille. La femme qui arrive ensuite dans sa vie, on en a pour le coup tous entendu parler. Déjà parce qu'elle arrive au moment du succès de George Clooney dans Urgence, mais aussi parce qu'elle est française. Elle s'appelle Céline Balitrand, si vous vous souvenez. Elle a 21 ans, elle a les cheveux bien blonds et les dents très blanches. Elle est étudiante en droit et le soir, elle travaille comme hôtesse dans un établissement parisien branché, le Barfly, où ils se rencontrent. 2 semaines plus tard, elle part le retrouver à Los Angeles et pour toutes les filles de cette génération, c'est l'incarnation du conte de fées, le truc qui n'arrive jamais. Pendant 3 ans, elle foule les tapis rouges le soir et est institutrice bénévole le jour. L'histoire d'amour prend fin quand George Clooney la quitte, leur rythme de vie étant quelque peu incompatible. Céline Balitrand, elle, dira au magazine Hola qu'elle voulait des enfants, mais que George n'a pas voulu en entendre parler. On a essayé de la contacter dans le cadre de cet épisode. Elle nous a gentiment répondu qu'elle n'avait aucun commentaire à faire sur une ex-relation. Dans une interview qu'il donne au magazine Esquire en 1999, soit juste après leur rupture, il n'a quand même pas honte de dire
« Mes relations semblent durer entre 2 et 3 ans. Ces femmes me voient écrire, réaliser, voyager, jouer, faire passer mon travail en premier. Je ne les blâme pas d'en vouloir plus. »
Comme Céline Balitrand, les suivantes sont toutes plus jeunes que lui.
Le séduisant quinca d'Hollywood est de retour. Ça y est, bonne nouvelle et bonne chance les filles, car George Clooney est un nouveau célibataire.
Il y a eu ensuite le mannequin Lisa Snowdon, 12 ans de moins que lui, puis le mannequin italien Elisabetta Canalis, 17 ans de moins, puis une star du catch, Stacy Keibler, 30 ans, alors que lui en a déjà 50. Et parmi elles, certaines ne le ratent pas. En 2005, Lisa Snowdon, par exemple, se lâche dans une interview en déclarant qu'au lit, il n'est pas vraiment plus excitant qu'un comptable, ajoutant qu'il ne parvient même pas à faire l'amour plus d'une fois par nuit. Mais donc voilà, pendant plus de 20 ans, George Clooney a d'une manière ou d'une autre toujours eu une femme dans son lit. Et peut-être parce que ça transpirait les histoires pas sérieuses, on l'a toujours vu comme un éternel célibataire.
Là où on voit un Don Juan chez Leonardo DiCaprio, par exemple, George Clooney apparaissait comme un bachelor qui était disponible tout en ayant toujours une femme à son bras. Ces histoires s'enchaînaient de façon très très bien huilée. On était sur des histoires donc, qui duraient 2-3 ans avec des jeunes femmes qui avaient 10, 15, puis 16, puis 17 ans de moins que lui. Enfin, les écarts se sont creusés en fait au fil du temps. Lui-même, je crois, avait dit que quand on est avec George Clooney, son boulot finalement est d'être avec George Clooney. C'était presque un boulot à plein temps d'être la compagne de George. Certains médias ont soupçonné qu'il existe des contrats que George Clooney aurait fait signer à ses conquêtes, des contrats qui auraient stipulé peut-être une durée, peut-être une clause de discrétion que ces jeunes femmes s'engagent à ne pas dire du mal de George Clooney. Il faut bien reconnaître que après les ruptures, aucune ne s'est prononcée contre lui. On a même toujours eu l'impression qu'il y avait un petit package, une petite offre de consolation, que ce soit par exemple le fait de faire danse avec les stars après la rupture. Plusieurs des conquêtes et des ex-compagnes de George Clooney ont fait dalle après s'être séparée de lui. Pour Céline Balitrand, par exemple, il avait financé tout le processus légal pour qu'elle puisse rester aux États-Unis.
Pendant toutes ces années en coulisses, Il y a autre chose qui semble l'intéresser vraiment, au-delà d'être nommé pour un Oscar, c'est sa bande de potes.
Chez Georges Clooney, pendant longtemps, les femmes n'ont fait que passer, alors que ses amis, eux, sont toujours restés à ses côtés. Lui-même le dit, il y a quelque chose d'attirant chez les mecs, une camaraderie que j'adore vraiment. Et c'est vrai que ses potes ont clairement été longtemps ce qu'il y avait le plus important chez lui, c'est sa part non négociable, on pourrait dire. Il y a d'abord une bande de 8 copains qu'il appelle ses boys, qu'il a rencontrés à son arrivée à Los Angeles, il y a une 40aine d'années. Donc tous travaillent dans le cinéma, qu'ils soient producteurs, acteurs. On a par exemple le comédien Richard Kind, qui était un des héros de la série Spin City. Voilà, il y en a d'autres qui sont tous beaucoup, beaucoup moins connus que George Clooney, mais auxquels il est d'une fidélité à toute épreuve. Ce sont des gens avec lesquels il est extrêmement généreux. En 1995, dès qu'il commence à toucher les premiers cachets d'urgence, il se met à emmener tous ses potes une fois par an, passer Noël extrêmement loin, donc il y aura Acapulco, Hawaï, il va les emmener un jour, une année, faire un marathon de golf à travers les meilleurs greens du pays. Il leur offre à chacun une moto un jour, parce qu'il a eu un gros cachet sur le tournage d'un film. Et puis, dès les premiers succès, il les impose aussi sur ses projets professionnels. Il va se débrouiller pour que l'un vienne sur Syriana, que l'autre travaille sur Confession d'un homme dangereux. Enfin, il sera toujours présent pour ses amis, de la même façon que eux l'ont fait pour lui. Pendant les temps de galère, il dormait sur le canapé de l'un, dans la chambre d'amis de l'autre. Alors, toute cette bande-là, c'est une bande d'irréductibles fêtards. Les femmes de leur vie subissent un peu cette situation. On sait que, par exemple, Céline Balitran, la jeune Française qui partagera la vie de Georges Clooney pendant 2 ou 3 ans, avait été un petit peu échaudée quand elle s'était entendue rappeler qu'elle n'avait pas le droit de venir à la fête d'anniversaire de Georges Clooney, et que c'était uniquement ouvert à ses amis masculins.
George Clooney a une maison à Los Angeles, une demeure de style Tudor, qu'il a lui-même baptisée la Casa de Clooney, dans laquelle tout est fait pour accueillir ses copains. Il y a un billard, une table de poker, un court de tennis, un terrain de basket, et même cette petite coupelle dans l'entrée, dans laquelle chacun est prié, dit-on, de déposer son alliance avant de commencer son séjour. Et ça, c'est pour la résidence californienne.
Sa propriété du lac de Côme était un peu conçu sur le même principe, c'est-à-dire qu'il y recevait chaque été ses amis. Nous, les locaux, les personnes du CRU que nous avons interviewées, nous parlaient toujours des fêtes dantesques que donnait Georges Clooney dans cette propriété, qui est d'ailleurs très accessible depuis la rue. C'est étonnant, elle est dans une petite rue, on voit la façade, on voit vraiment l'entrée, c'est très 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 accessible. Et lors de ces fêtes interminables qui duraient des jours et des jours, le prérequis, c'était que tout le monde finisse à poil dans le lac de Côme.
Et Georges Clooney ne partage pas que des bons moments avec ses meilleurs potes. Il partage généreusement jusqu'à son argent, comme le dit Maëlle Brun, et comme le montre cette interview lunaire de son ami Randy Gerber à Access Hollywood.
George nous a appelés, les garçons et moi, et il nous a dit « Hey, le 27 septembre 2013, notez sur votre calendrier que tout le monde vient dîner chez moi. » Devant chacun de nous, sur la table, il y avait un sac noir, comme un sac à main. Un bagage, quoi. On l'a ouvert et il y avait $1 million en billets de vin à l'intérieur. Chacun des 14 d'entre nous a reçu $1 million. On était choqués. On se disait, mais c'est quoi ça? Il nous a dit, je sais qu'on a tous traversé des moments difficiles. Certains d'entre vous en traversent encore. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour vos enfants. Vous n'avez pas à vous soucier de leurs études. Vous n'avez pas à vous soucier de payer votre emprunt. J'ai poussé le sac sur le côté et j'ai dit, je ne prendrai absolument pas $1 million. Et tout de suite, George a dit, je ne vous dirai qu'une seule chose. Si Randy ne prend pas le million, personne ne l'aura.
Ils ont tous pris le million. Évidemment. Au fil du temps, George Clooney s'est fait d'autres amis, notamment parmi les acteurs de la saga Ocean's 11, 12 et 13. Il y a d'abord Brad Pitt, dont il est toujours très proche aujourd'hui, mais aussi Matt Damon. Avec eux, l'ambiance est à la blague potache et au canular très premier degré. Il y a cet exemple assez hilarant de Brad Pitt qui, en pleine promo d'Ocean's 12, lance la rumeur auprès des journalistes que George ne supporte pas qu'on le regarde dans les yeux et qu'il tient à ce qu'on l'appelle Danny Ocean comme son personnage dans le film. Réponse de George Clooney quelques jours plus tard, un autocollant sur la voiture de Brad Pitt qui dit « J'emmerde les flics » avec un dessin de feuilles de cannabis. Et Brad Pitt se fera vraiment arrêter à cause de ça. Il y a aussi cette fois où Matt Damon passe des vacances dans la villa de Clooney au bord du lac de Côme. Matt Damon essaie alors de maigrir pour un rôle, et pour la blague, George Clooney demande à une couturière de rétrécir tous les jours un peu plus ses pantalons, ce qui va rendre Matt Damon complètement dingue.
On connaît aussi, enfin, ce qui sera beaucoup raconté dans la presse, ce sont leurs concours de paix en avion, aérien, donc qui font souffrir le reste de l'équipe, mais eux trouvent ça très drôle. Au fil des ans, il s'est aussi fait ami, par exemple, avec Jean Dujardin, qu'il décrit comme l'un des mecs les plus drôles qu'il ait rencontré dans sa vie.
Il a d'ailleurs raconté, lors d'un entretien accordé aux Parisiens en 2014, que quand il l'a rencontré, Jean Dujardin ne parlait qu'un anglais très approximatif. Mais quand l'acteur français lui a fait son imitation du chameau, il a complètement craqué.
Voilà, il a toujours eu ce côté célibataire, mes potes avant tout, un peu, oui, en effet, ado attardé. C'est évidemment un aspect de sa personnalité qu'Amal Clooney travaille à gommer quand même, parce qu'elle, depuis qu'ils ont des enfants, etc., elle est un petit peu réticente à le voir partir des jours et des jours en moto avec Randy Gerber ou donner des fêtes jusqu'à pas d'heure dans sa maison du lac de Côme.
Parce que oui, Amal Alamuddin arrive dans la vie de George Clooney et elle va tout changer. Ça se passe en octobre 2013, il a 52 ans et il vient de tourner Gravity, le blockbuster d'Alfonso Cuarón avec Sandra Bullock. Amal a 35 ans et elle n'est ni actrice de série B, ni wannabe mannequin sur la côte ouest. Il raconte leur rencontre dans le talk show de David Letterman diffusé sur Netflix.
A mutual friend of ours said, I'm stopping by and...
Un ami qu'on avait en commun m'a dit « Je passe dans le coin, est-ce que je peux venir avec une amie ?» Je lui ai dit « Bien sûr !» Puis j'ai reçu un appel de mon agent qui m'a dit au téléphone « Je viens de rencontrer cette femme qui arrive chez toi, c'est la femme que tu vas épouser. » Ça s'est vraiment passé comme ça. Et le truc le plus drôle, c'est que ma mère et mon père me rendaient visite à ce moment-là. Donc mes parents étaient là. Et on a parlé, ça a duré toute la nuit. J'ai eu son adresse email parce qu'elle devait m'envoyer des photos de mes parents qu'elle avait prises. Et puis on a commencé à s'écrire, et je ne savais pas trop si je l'intéressais. Je pensais qu'on était potes.
Qui voudrait, George ? Soyons francs. Qui voudrait vraiment sortir avec vous ?
Elle accepte, évidemment. Et le monde découvre cette avocate internationale libano-britannique qu'on aurait tout sauf imaginé dans les bras de George Clooney. Pourquoi ? Parce que pendant qu'il faisait rétrécir les pantalons de Matt Damon en pouffant de rire derrière une porte, Amal, elle, assistait Kofi Annan à l'ONU dans ses efforts de paix en Syrie. Et dès le tribunal international dans l'enquête sur la mort de l'ancien premier ministre libanais Rafik Hariri, défendait Julian Assange dans le dossier Wikileaks et Yulia Tymoshenko devant la Cour européenne des droits de l'homme. Bref, au-delà de son look irréprochable qui lui a souvent valu d'être dans les classements de femmes les plus stylées d'Angleterre, et ce bien avant de rencontrer George Clooney, c'est vraiment une pointure dans son domaine. Et quand le site américain The Business Woman Media titre deux jours avant leur mariage, Amal Alamuddin, l'avocate mondialement réputée, épouse un acteur, ça fait rire tout le monde et on n'est pas si loin de la réalité. L'actrice et humoriste Tina Fey en remit une couche sur la scène des Golden Globes en 2015.
George Clooney a épousé Amal Alamuddin cette année. Amal est une avocate spécialisée dans les droits de l'homme. Elle a travaillé sur l'affaire Enron. Elle a été conseillère de Kofi Annan à propos de la Syrie. Et elle a été sélectionnée pour faire partie d'une commission de trois personnes à l'ONU chargée d'enquêter sur les atteintes au droit international à Gaza. Mais ce soir, c'est son mari qui reçoit un prix qui récompense l'ensemble de sa carrière.
Ils se marient le 27 septembre 2014 à Venise, soit moins d'un an après leur rencontre. Ils arrivent en bateau Riva sur le Grand Canal. Elle porte une sublime robe blanche Oscar de la Renta pour la cérémonie, à laquelle sont évidemment présents les boys, mais aussi Matt Damon, Bill Murray et Anna Wintour. Vous vous souvenez du George qui ne voulait ni s'engager ni faire d'enfant ? Eh bien maintenant, il dit ce genre de choses à la télé.
I met someone...
J'ai rencontré quelqu'un pour qui je pourrais donner ma vie. Quelqu'un dont la vie vaut plus pour moi que ma propre vie. Et ça, ça ne m'était jamais arrivé.
George Clooney a donc, oui, vraiment changé. En septembre 2017, soit trois ans après leur mariage, ils accueillent des jumeaux, une fille et un garçon prénommés Ella et Alexander. George Clooney a 56 ans et il n'est pas vraiment rodé à l'exercice. sur le plateau de Jimmy Kimmel 2 ans plus tard, et alors que l'animateur lui demande ce que ses enfants de 2 ans lui ont offert pour ses 58 ans, il répond
Just poop.
Juste une crotte. Ce qui est gentil, ma fille est malade, comme ça arrive souvent, apparemment chez les enfants, ce que je ne savais pas.
Il a changé au point qu'il a même les larmes aux yeux quand sa femme lui fait l'honneur de prendre la parole devant tout Hollywood sur la scène du gala qui récompense la carrière de George en 2018.
My love, what I have found
Mon amour, j'ai trouvé avec toi le grand amour, celui que j'ai toujours rêvé de vivre. Te voir avec nos enfants, Ella et Alexander, c'est la plus grande joie de toute ma vie. Je suis fière de toi. Et je sais que lorsque nos enfants se rendront compte non seulement de ce que tu as fait, mais aussi de qui tu es, ils seront aussi très fiers de toi.
S'ensuit une standing ovation, et le premier à se lever est Nick Clooney, le père de George. Bon, ce n'est évidemment qu'un court extrait du discours, qui dure pratiquement 8 minutes en réalité, et qui cache évidemment quelques touches d'humour, comme celle-ci par exemple.
Il est certainement la seule personne au monde à inviter ses 13 amis les plus proches à dîner un soir et à leur offrir chacun une valise remplie $1 million en cash. Il faut dire que le 14e ami le plus proche est encore très contrarié par cette histoire.
Donc George est marié, amoureux, il est papa et il semble depuis quelques années dire tranquillement adieu au studio de cinéma. Son engagement humanitaire et politique commence pourtant par un film. Syriana, film qui pointe du doigt les rapports biaisés entre les États-Unis et les pays détenteurs de pétrole. Il le produit en 2005, et c'est bien avant sa rencontre avec Amal.
Tous les films dans lesquels d'ailleurs s'implique George Clooney aujourd'hui sont toujours des projets assez politiques. On ne va plus le voir faire une comédie romantique. Tous les rôles pour lesquels il a été connu et aimé au cinéma, les séries à la Urgence, etc., c'est aujourd'hui très loin de George Clooney. Lui-même dit d'ailleurs qu'il ne veut plus être le sex symbole et le jeune premier qu'il a été. Ça serait absolument ridicule alors qu'il est aujourd'hui sexagénaire. Voilà, aujourd'hui, tout son travail entend dénoncer quelque chose ou mettre le projecteur sur une réalité, pointer du doigt des polémiques, etc.
Ça passe par Good Night and Good Luck, son premier film en tant que réalisateur sur la fin du McCarthyisme, mais aussi Les Marches du Pouvoir, Monuments Men, Bienvenue à Suburbicon, Minuit dans l'univers qui prédit une imminente catastrophe planétaire, que des films qu'il a réalisés. En parallèle, il s'engage auprès de Barack Obama lors des élections présidentielles de 2008. Il va nouer avec lui une véritable relation d'amitié, face caméra en tout cas. Parce que bien sûr, Obama a tout à fait compris l'aura et le glamour que pouvait lui apporter Clooney. George Clooney s'engage surtout sur un terrain en particulier, le Darfour, région de l'ouest du Soudan et théâtre d'une grave crise humanitaire à cause de la guerre civile qui sévit là-bas depuis une vingtaine d'années. Dans son ouvrage dédié à George Clooney, Maëlle Brun évoque longuement l'engagement de l'acteur dans ce pays d'Afrique.
La crise au Darfour, il l'a découverte en étant l'ambassadeur de Nespresso. Il s'est un peu intéressé au processus de récolte du café, etc. Et la région du Darfour étant assez riche en plantations de café, George Clooney s'est intéressé à la situation et s'est rendu compte de toutes les problématiques humanitaires. Dès 2010, George Clooney décide d'agir, en fait. Et jusque-là, il disait être un stratège géopolitique, mais là, il décide vraiment d'agir. Comment ? En investissant tous les cachets que lui verse Nespresso, s'il se monte à plusieurs millions de dollars, dans un projet très particulier qui s'appelle le Satellite Sentinel Project, qui consiste à mettre en orbite au-dessus du Darfour un satellite pour enregistrer, en fait, tous les faits et gestes du président soudanais Omar el-Béchir. George Clooney considère que, à raison sans doute, qu'énormément d'exactions sont commises dans le pays, et il veut avoir une trace de tout ça pour le transmettre à la Cour pénale internationale. Donc là, on voit bien que George Clooney n'est pas uniquement un philanthrope comme le sont plein d'autres stars hollywoodiennes qui vont mettre leur notoriété au service d'une cause, etc. Et puis, ils vont se contenter de donner quelques dollars, ce qui est déjà évidemment très bien. Non, George Clooney, lui, ce qu'il veut, c'est agir. Il a souvent manifesté, quitte à se faire embarquer au commissariat, devant les caméras, pour justement, et ça c'était des épisodes qui étaient très mis en scène, mais pour donner des coups de projecteur sur les causes qu'il défend, le Darfour, mais depuis aussi la dénonciation du génocide arménien, enfin il y a la guerre en Syrie.
Son engagement est tel que beaucoup se demandent si George Clooney aurait quelque chose derrière la tête. Pour eux, le fait que George soit aujourd'hui le visage de l'aide humanitaire au Darfour Qu'il soit marié à l'une des plus grandes avocates internationales du monde, ce ne serait pas anodin. Et même tout le contraire. En février 2016, les images montrant le couple clowné reçu en privé par Angela Merkel à Berlin pour évoquer la crise syrienne ont vraiment interrogé. On s'est dit, George Clooney, il se prend pour Barack Obama en fait ?
Ça prouve une nouvelle fois ce que certains Américains savaient mais qu'on ne mesurait pas bien en Europe, c'est que George Clooney est devenu un diplomate d'un genre nouveau. Il le dit lui-même, il se présente comme un stratège planétaire et c'est une personnalité avec laquelle il faut maintenant compter en politique.
Dans cette apparente ambition politique, on dit apparente parce qu'il ne l'a jamais vraiment officialisée, il est accompagné de très près par son père, Nick Clooney, avec qui il a fait son premier voyage au Darfour, et depuis une dizaine d'années par la mère de sa femme, Baria Alamuddin, journaliste de formation qui a fondé plusieurs sociétés de conseil aux célébrités. Donc en fait, on peut légitimement penser aujourd'hui que la moindre petite phrase ou punchline de George Clooney est en fait ultra travaillée, ultra réfléchie, et qu'il a une communication extrêmement rodée. Et il semble que ça paye.
Aux États-Unis, dans le camp démocrate, beaucoup aimeraient que George Clooney se présente aux plus hautes fonctions, alors qu'il s'agisse du gouverneur de Californie. Après tout, ce ne serait pas une première, puisque c'est quand même un État qui a eu Arnold Schwarzenegger ou Ronald Reagan à sa tête. Donc on peut se dire qu'un acteur y a tout à fait sa place. D'autres l'imaginent carrément briguer la fonction suprême et devenir président des États-Unis. C'est une idée qui est devenue de plus en plus répandue depuis l'élection de Donald Trump. C'est vrai que le manque d'études de George Clooney, qui n'a pas de diplôme, il y avait certaines barrières quand même qui pouvaient surgir pour une élection éventuelle de George Clooney. Depuis l'élection de Donald Trump, toutes ces barrières ont sauté, elles ont été dynamitées. Et donc, énormément de voix dans le camp démocrate, plusieurs think tanks démocrates ont contacté George Clooney et son entourage pour essayer de le pousser à s'engager en politique de façon plus concrète et à briguer des mandats, voire même le mandat présidentiel.
Et George Clooney, qu'est-ce qu'il en dit, lui ?
Alors lui, jusqu'ici, a toujours démenti. Lui, il explique, alors il le dit en riant, sous la forme de blague, en disant qu'il a beaucoup trop de casseroles aux fesses pour pouvoir passer une élection et il veut pas du tout être dans la lessiveuse que peut représenter une campagne. Lui, à mon avis, considère qu'il a plus d'influence et plus de poids en tant que stratège planétaire, en tant que lobbyiste, en tant qu'influenceur d'un genre nouveau, comme il le dit, et lui préfère être dans l'ombre. Je pense qu'il considère qu'il a beaucoup plus à perdre en se présentant à une élection. Il a en plus un très mauvais souvenir de la première élection à laquelle il a vraiment participé dans sa chair, j'ai envie de dire, c'est celle de son père. Qui s'est présenté dans le Kentucky aux élections de la Chambre des représentants et qui a perdu et qui a vécu cet échec en fait comme une véritable humiliation personnelle. George Clooney a vu son père beaucoup souffrir de tout ça et ça l'a marqué.
Alors Clooney président, rien n'est moins sûr. Et quelles que soient ses ambitions secrètes, la route est longue vers la Maison Blanche et les embûches nombreuses sur son chemin. Arrivé à la fin de cet épisode, on peut néanmoins penser, c'est vrai, qu'il a bien travaillé le terrain. Avec ses choix de films d'abord, de plus en plus engagés au fil du temps, puis avec son implication humanitaire au Darfour, de plus en plus visible, et enfin avec son atout majeur, sa femme, Amal Clooney. On peut aussi penser que George Clooney n'est finalement pas celui qu'on croyait être. Ou alors juste qu'il n'est pas celui qu'on pensait qu'il allait devenir. On le projetait plus comme un Patrick Dempsey ou même comme un Pierce Brosnan. Il aurait pu jouer dans James Bond, George Clooney. Mais non. Il a pris de la hauteur. Beaucoup de hauteur. C'est un acteur de premier plan aujourd'hui et pas qu'au cinéma. Et c'est à se demander si dès le départ, il n'avait pas déjà beaucoup plus d'ambition que les autres. Derrière le mec cool, détendu, bon pote potache, il y a peut-être en fait un stratège de tous les instants. Une usine à gaz de contrôle. Et si on va par là, alors oui, on peut croire qu'un jour, le pédiatre d'urgence sera président des États-Unis. Ou encore mieux, c'est Amal, sa femme, qui le sera. Ils emmèneront leurs jumeaux à l'école avec Air Force One et auront un labrador noir. Et ça leur ira plutôt bien. What else? Je suis Marion Galli-Ramouneau et vous venez d'écouter le premier épisode de cette troisième saison de Scandale, un podcast de Madame Figaro. Camille Lamblot a été chargée d'enquête et Fanny Sauveplane a apporté son aide à la production. À la prise de son, Louis Chabin. Thomas Rosès a fait le montage, la réalisation et le mix de cet épisode. Il a aussi arrangé certaines des musiques qui ont été composées par Jean Thévenin. Lucille Rousseau-Garcia est la productrice de Scandale et Océane Suny en est la responsable éditoriale. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez nous laisser des étoiles et des commentaires. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à Scandale, ça vous permettra de ne pas rater les prochains épisodes. On revient bientôt avec Gwyneth Paltrow, jeune fille modèle d'Hollywood devenue gourou du bien-être, entrepreneuse pour les uns, illuminée pour les autres.
Avec les parfums Scandale de Jean-Paul Gaultier, le scandale va être sur toutes les lèvres, surtout sur celles qui aiment raconter des sulfureuses histoires de stars.